Chapitre 10, la nuit du 5 au 6 octobre, le matin, mort de Georges de Charny. La nuit fut assez tranquille, l'assemblée demeura en séance jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures, avant que les membres se séparassent, elle envoya deux de ses huissiers qui parcoururent Versailles, visitèrent les abords du château et firent le tour du parc. Tout était, ou tout paraissait, être tranquille. La reine avait voulu sortir vers minuit par la grille du Trianon, mais la garde nationale avait refusé de la laisser passer. Elle avait allégué des craintes, on lui avait répondu qu'elle était plus en sûreté à Versailles que partout ailleurs. En conséquence, elle s'était retirée dans ses petits appartements et, en effet, elle était rassurée en les voyant protégés par ses gardes les plus fidèles. À sa porte, elle avait trouvé Georges de Charny. Il était armé, appuyé sur le fusil court que les gardes portaient comme les dragons. C'était contre les habitudes. Les gardes, à l'intérieur, ne faisaient faction qu'avec leurs sabres. Alors elle s'était approchée de lui. « Ah, c'est vous, baron ? » avait-elle dit. « Oui, madame. Toujours fidèle. Ne suis-je pas à mon poste ? Et qui vous y a mis ? Mon frère, madame. Et où est votre frère ? Près du roi. » « Pourquoi, près du roi ?»« Parce qu'il est le chef de la famille, a-t-il dit, et qu'en cette qualité, il a le droit de mourir pour le roi, qui est le chef de l'État. »« Oui, dit Marie-Antoinette avec une certaine amertume, tandis que vous n'avez le droit de mourir que pour la reine. »« Ce sera un grand honneur pour moi, madame, dit le jeune homme en s'inclinant, si Dieu permet que j'accomplisse jamais ce devoir. » La reine fit un pas pour se retirer, mais un soupçon la mordit au cœur. Elle s'arrêta et, tournant à demi la tête, « Et la comtesse, demanda-t-elle, qu'est-elle devenue ?»« La comtesse, madame, vient de rentrer il y a 10 minutes et s'est fait dresser un lit dans l'antichambre de votre majesté. » La reine se mordit les lèvres. Il suffisait qu'on touchât en quelques points de cette famille de Charny pour qu'on ne fût jamais pris hors de son devoir. « Merci, monsieur, dit la reine avec un charmant signe de la tête et de la main à la fois. Merci de ce que vous veillez si bien sur la reine. Vous remercierez de ma part votre frère de ce qu'il veille si bien sur le roi. » Et à ces mots, elle rentra. Dans l'antichambre, elle trouva André, non pas couché, mais debout, respectueuse et attendant. Elle ne put s'empêcher de lui tendre la main. « Je viens de remercier votre beau-frère Georges, comtesse, dit-elle. Je l'ai chargé de remercier votre mari et je vous remercie à votre tour. » André fit la révérence et se rangea pour laisser passer la reine qui regagna sa chambre à coucher. La reine ne lui dit pas de la suivre. Ce dévouement, dont on sentait que l'affection s'était retirée et qui cependant, tout glacé qu'il était, s'offrait jusqu'à la mort, la mettait mal à son aise. Donc à 3 heures du matin, comme nous avons dit, tout était tranquille. Gilbert était sorti du château avec monsieur de Lafayette, qui était resté 12 heures à cheval et qui tombait de fatigue. À la porte, il avait rencontré Billot, venu avec la garde nationale. Il avait vu partir Gilbert, il pensait que Gilbert pouvait avoir besoin de lui là-bas, et il était venu le rejoindre comme le chien vient rejoindre son maître parti sans lui. À 3 heures, comme nous avons dit, tout était tranquille. L'assemblée elle-même, rassurée par le rapport de ses huissiers, s'était retirée. On espérait bien que cette tranquillité ne serait pas troublée. On comptait mal. Dans presque tous les mouvements populaires qui préparent les grandes révolutions, il y a un temps d'arrêt, pendant lequel on croit que tout est fini et que l'on peut dormir tranquille. On se trompe. Derrière les hommes qui font les premiers mouvements, il y a ceux qui attendent que ce premier mouvement soit fait et que, fatigués ou satisfaits, dans l'un ou l'autre cas ne voulant pas aller plus loin, ceux qui ont accompli ce premier mouvement se reposent. C'est alors qu'à leur tour, ces hommes inconnus, mystérieux agents des passions fatales, se glissent dans les ténèbres et reprennent le mouvement où il a été abandonné. et le poussant jusqu'à cette dernière limite, épouvante à leur réveil ceux qui leur ont ouvert le chemin et qui s'étaient couchés à la moitié de la route, croyant la route faite, croyant le but atteint. Il y eut impulsion bien différente pendant cette nuit terrible, donnée par les deux troupes arrivées à Versailles, l'une le soir, l'autre pendant la nuit. La première venait parce qu'elle avait faim, et elle demandait du pain. La seconde venait par haine, et elle demandait vengeance. Nous savons qui conduisait la première troupe, Maillard et Lafayette. Maintenant, qui conduisait la seconde? L'histoire ne nomme personne, mais, à défaut de l'histoire, la tradition nomme Marat. Nous le connaissons, nous l'avons vu lors des fêtes du mariage de Marie-Antoinette coupant des jambes sur la place Louis XV. Nous l'avons vu sur la place de l'Hôtel de Ville poussant les citoyens vers la place de la Bastille. Enfin, nous le voyons se glissant dans la nuit comme ces loups qui rampent autour des parcs de moutons attendant que le berger soit endormi pour risquer leur œuvre sanglante. Verrières. Celui-là, nous le nommons pour la première fois. C'était un nain difforme, un bossu hideux, monté sur des jambes démesurées. À chaque orage qui troublait le fond de la société, on voyait le gnome sanglant monter avec écume et s'agiter à sa surface. Deux ou trois fois, aux époques terribles, on le vit passer dans Paris, accroupi sur un cheval noir, pareil à une figure de l'Apocalypse ou à un de ces diables impossibles, nés sous le crayon de Callot pour tenter Saint-Antoine. Un jour, dans un club, et monté sur une table, il attaqua, il menaça, il accusa Danton. C'était à l'époque où commençait à chanceler la popularité de l'homme du 2 septembre. Sous cette attaque venimeuse, Danton se sentit perdu, perdu comme le lion qui aperçoit à deux doigts de ses lèvres la tête hideuse du serpent. Il regarda autour de lui, cherchant soit une arme, soit un soutien. Il aperçut par bonheur un autre bossu. Il le prit aussitôt sur ses épaules et, le soulevant, il le posa sur la table en face de son confrère. « Mon ami, dit-il, répondez à monsieur, je vous passe la parole. » On éclata de rire et Danton fut sauvé, pour cette fois-là du moins. Il y avait donc, la tradition le dit, il y avait Marat, Verrières, et puis encore le duc d'Aiguillon. Le duc d'Aiguillon, c'est-à-dire un des ennemis modèles de la reine. Le duc d'Aiguillon déguisé en femme. Qui dit cela? Tout le monde. L'abbé de Lille et l'abbé Maury, ces deux abbés qui se ressemblent si peu. On a attribué au premier ce fameux vers « En homme, c'est un lâche, en femme, un assassin ». Quant à l'abbé Maury, c'est autre chose. 15 jours après les événements que nous racontons, le duc d'Aiguillon le rencontra sur la terrasse des Feuillants et voulut l'accoster. « Passe ton chemin, salope !» dit l'abbé Maury, et il s'éloigna majestueusement du duc. Or, on dit donc que ces trois hommes arrivèrent à Versailles vers 4 heures du matin. Ils conduisaient cette seconde troupe dont nous avons parlé. Elle se composait de ceux qui viennent après ceux qui combattent pour vaincre. Ils viennent, eux, pour piller et pour assassiner. Or, on avait bien assassiné un peu à la Bastille, mais on n'avait pas pillé du tout. Versailles offrait une belle revanche à prendre. Vers 5h30 du matin, le château tressaillit au milieu de son sommeil. Un coup de fusil venait d'être tiré de la cour de marbre. 500 ou 600 hommes s'étaient tout à coup présentés à la grille, en s'excitant, s'animant, se poussant, ils avaient d'un seul effort, les uns escaladés, les autres forcés cette grille. C'est alors que le coup de fusil de la sentinelle avait donné l'alarme. Un des assaillants était tombé mort, son cadavre s'allongeait sur le pavé. Ce coup de feu a fendu le groupe des pillards qui visent, les uns à l'argenterie du château, les autres, qui sait, peut-être à la couronne du roi. Séparé comme par un immense coup de hache, le flot se divise en deux troupes. L'une des troupes va s'abattre sur l'appartement de la reine, l'autre monte vers la chapelle, c'est-à-dire vers l'appartement du roi. Suivons d'abord celui qui monte vers l'appartement du roi. Vous avez vu monter le flot dans les grandes marées, n'est-ce pas? Eh bien, le flot populaire est pareil, avec cette différence qu'il avance toujours sans reculer. Toute la garde du roi se compose en ce moment du factionnaire qui veille à la porte et d'un officier qui sort précipitamment des antichambres armé d'une hallebarde qu'il vient d'arracher aux Suisses effrayés. « Qui vive ?» crie le factionnaire. « Qui vive ?» Et comme il n'y a pas de réponse et que le flot monte toujours, « Qui vive ?» crie-t-il une troisième fois et il met en joue. L'officier comprend ce qui va résulter d'un coup de feu tiré dans les appartements. Il relève le fusil, se précipite au devant des assaillants et barre avec sa hallebarde l'escalier dans toute sa largeur. « Messieurs, messieurs, s'écrie-t-il, que voulez-vous? Que demandez-vous? Rien, rien, disent en raillant plusieurs voix. Allons, laissez-nous passer. Nous sommes de bons amis de Sa Majesté. Vous êtes de bons amis de Sa Majesté et vous lui apportez la guerre. » Cette fois, pas de réponse. Un rire sinistre, voilà tout. Un homme saisi le manche de la hallebarde que l'officier ne veut pas lâcher. Pour le lui faire lâcher, l'homme lui mord la main. L'officier arrache la hallebarde des mains de son adversaire, en saisit avec les siennes placées à deux pieds de distance le manche de chêne, abaisse de toute sa force ce manche sur la tête de son adversaire et lui fend le crâne. La violence du coup a brisé en deux la hallebarde. Dès lors, l'officier a deux armes au lieu d'une, un bâton et un poignard. Avec le bâton, il fait le moulinet, avec le poignard, il darde. Pendant ce temps, le factionnaire a rouvert la porte de l'antichambre et a appelé à l'aide. Cinq ou six gardes sont sortis. « Messieurs, messieurs, dit la sentinelle, à l'aide de monsieur de Charny, à l'aide !» Les sabres sortent du fourreau, brillent un instant à la lueur de la lampe qui brûle au haut de l'escalier et à droite et à gauche de Charny fouillent furieusement les assaillants. Des cris de douleur se font entendre, le sang jaillit, le flot recule en roulant sur les marches qu'il découvre en se retirant et qui apparaissent rouges et glissantes. La porte de l'antichambre se rouvre une troisième fois et la sentinelle crie « Rentrez, messieurs, le roi l'ordonne !» Les gardes profitent du moment de confusion qui s'est opéré dans la foule. Ils s'élancent vers la porte. Charny rentre le dernier. La porte se referme sur lui. Les deux larges verrous glissent dans leur gâche. Mille coups frappent à la fois cette porte, mais on entasse derrière elle banquettes, tables et tabourets. Elle tiendra bien 10 minutes. 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, quelque renfort arrivera. Voyons, que se passe-t-il chez la reine? Le second groupe s'est élancé vers les petits appartements, mais là, l'escalier est étroit, et à peine deux personnes peuvent-elles passer de front dans le corridor. C'est là que veille Georges de Charny. Au troisième qui-vive resté sans réponse, il a fait feu. Au bruit du coup, la porte de la reine s'ouvre. André passe sa tête, pâle mais calme. « Qu'y a-t-il » demande-t-elle. « Madame, s'écrie Georges, sauvez Sa Majesté, c'est à sa vie qu'on en veut. Je suis seul ici contre 1000, mais n'importe, je tiendrai le plus longtemps possible. Hâtez-vous, hâtez-vous !» Et puis, comme les assaillants se précipitent sur lui, il tire la porte en criant « Fermez le verrou, fermez ! Ah, je vivrai assez longtemps pour donner à la reine le temps de se lever et de fuir !» Et en se retournant, il perce de sa baïonnette les deux premiers qu'il rencontre dans le corridor. La reine a tout entendu, et quand André entre dans sa chambre, elle la trouve debout. Deux de ses femmes, Madame Auguet et Madame Thibault, l'habillent à la hâte. Puis, à moitié vêtue, les deux femmes la poussent chez le roi par un escalier dérobé, tandis que, toujours calme et comme indifférente à son propre danger, André ferme l'une après l'autre au verrou chaque porte qu'elle franchit en marchant sur les pas de Marie-Antoinette. Un homme atteignait la reine sur la limite des deux appartements. Cet homme, c'était Charny, tout sanglant. « Le roi !» s'écria Marie-Antoinette en voyant les vêtements rougis du jeune homme. « Le roi, monsieur, vous avez promis de sauver le roi !»« Le roi est sauvé, madame, » répondit Charny. et plongeant son regard à travers les portes que la reine avait laissées ouvertes pour arriver de chez elle à l'œil de bœuf, où se trouvaient réunis en ce moment la reine, Madame Royale, le dauphin et quelques gardes, il s'apprêtait à demander où était André quand il rencontra le regard de la reine. Ce regard arrêta la parole sur ses lèvres, mais le regard de la reine ne plongeait avant dans le cœur de Charny. Il n'eut pas besoin de parler, Marie-Antoinette devina sa pensée. « Elle vient, dit-elle, soyez tranquille. » Et elle courut au dauphin qu'elle prit dans ses bras. En effet, André fermait la dernière porte et entrait à son tour dans la salle de l'œil de bœuf. André et Charny n'échangèrent pas un mot. Le sourire de l'un répondit au sourire de l'autre, voilà tout. Chose étrange, ces deux cœurs si longtemps séparés commençaient à avoir des battements qui répondaient l'un à l'autre. Pendant ce temps, la reine regardait autour d'elle, comme si elle eût été heureuse de prendre Charny en faute. « Le roi » demanda-t-elle. « Le roi ?»« Le roi vous cherche, madame, » répondit tranquillement Charny. « Il est allé chez vous par un corridor, tandis que vous êtes venu par un autre. » Au même moment, on entendit de grands cris dans la salle voisine. C'étaient les assassins qui criaient « À bas l'Autrichienne ! À bas la Messaline ! À bas la Veto ! Il faut l'étrangler ! Il faut la pendre !» En même temps, deux coups de pistolet se font entendre et deux balles trouent la porte à différentes hauteurs. Une de ces balles passa à quelques lignes de la tête du dauphin et alla s'enfoncer dans les lambris. « Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! » s'écria la reine, tombant à genoux. « Nous mourrons tous !» Les cinq ou six gardes, sur un signe de Charny, firent alors un rempart de leur corps à la reine et aux deux enfants royaux. En ce moment, le roi apparut, les yeux pleins de larmes, le visage pâle. Il appelait la reine comme la reine avait appelé le roi. Il l'aperçut et se jeta dans ses bras. « Ah, sauvé, sauvé !» cria la reine. « Par lui, madame, » répondit le roi en montrant Charny. « Et vous, sauvé aussi, n'est-ce pas ?»« Par son frère, » répondit la reine. « Monsieur, dit Louis XVI au comte, nous devons beaucoup à votre famille, trop pour que nous puissions jamais nous acquitter. » La reine rencontra le regard d'André et détourna la tête en rougissant. Les coups des assaillants commençaient à retentir dans la porte. « Allons, messieurs, dit Charny, il faut tenir ici une heure. Nous sommes sept, on mettra bien une heure à nous tuer, si nous nous défendons bien. D'ici à une heure, il est impossible qu'on ne vienne pas au secours de leur majesté. » Et à ces mots, Charny saisit une immense armoire qui garnissait l'angle de la chambre royale. L'exemple fut suivi, et bientôt ce fut un amas de meubles amoncelés à travers lesquels les gardes se ménagèrent des meurtrières pour tirer. La reine prit ses deux enfants dans ses bras, et, élevant ses mains au-dessus de leur tête, elle pria. Les enfants étouffèrent leurs gémissements et leurs larmes. Le roi rentra dans le cabinet, attenant à l'œil de bœuf afin de brûler quelques papiers précieux qu'il voulait dérober aux assaillants. Ceux-ci s'acharnaient sur la porte. À chaque instant, on voyait sauter quelques lambeaux sous le tranchant d'une hache ou sous la morsure d'une pince. Par les ouvertures pratiquées, les piques à la langue rougie, les baïonnettes au triangle ensanglanté passaient, essayant de darder la mort. En même temps, les balles trouaient le châssis au-dessus de la barricade et allaient sillonner le plâtre du plafond doré. Enfin, une banquette croula du haut de l'armoire. L'armoire s'entama. Tout un panneau de la porte que recouvrait cette armoire s'ouvrit béant comme un gouffre, et l'on vit, par l'ouverture élargie, à la place des baïonnettes et des piques, passer des bras sanglants qui se cramponnaient aux ouvertures qui allaient sans cesse s'élargissant. Les gardes avaient brûlé jusqu'à leur dernière cartouche, et ce n'était pas inutilement, car à travers cette ouverture grandissante, on pouvait voir le parquet de la galerie jonché de blessés et de morts. Au cri des femmes qui, par cette ouverture, croyaient déjà voir entrer la mort, le roi revint. Sire, dit Charny, enfermez-vous avec la reine dans le cabinet le plus éloigné. Fermez sur vous toutes les portes, mettez deux de nous derrière les portes. Je demande à être le dernier et à garder la dernière. Je réponds de 2 heures, ils ont été plus de 40 minutes à enfoncer celle-ci. » Le roi hésitait. Il lui paraissait humiliant de fuir ainsi de chambre en chambre, de se retrancher ainsi derrière chaque cloison. S'il n'y avait pas eu la reine, il n'eût pas reculé d'un pas. Si la reine n'avait pas eu ses enfants, elle serait restée aussi ferme que le roi. Mais, hélas, pauvres humains, rois ou sujets, nous avons toujours au cœur une ouverture secrète par laquelle fuit l'audace et entre la terreur. Le roi allait donc donner l'ordre de fuir dans le cabinet le plus reculé, lorsque tout à coup les bras se retirèrent, les piques et les baïonnettes disparurent, les cris et les menaces s'éteignirent. Il y eut un moment de silence où chacun resta la bouche ouverte, l'oreille tendue, la laine muette. Puis on entendit le pas cadencé d'une troupe régulière. « Ah, c'est la garde nationale !» s'écria Charny. « Monsieur de Charny ! Monsieur de Charny !» cria une voix, et en même temps la figure bien connue de Billot apparut à l'ouverture. « Billot ! » s'écria Charny, « c'est vous, mon ami ?»« Oui, c'est moi. Le roi et la reine, où sont-ils ? » ?»«
Ils sont là.
Sains et saufs ? » ?»«
Sains et saufs.
Ah, Dieu soit loué ! Monsieur Gilbert ! Monsieur Gilbert ! Par ici !»
À ce nom de Gilbert, deux cœurs de femmes tressaillirent d'une façon bien différente, le cœur de la reine, le cœur d'André.
Charny se retourna instinctivement, il vit André et la reine pâlir à ce nom. Il secoua la tête et soupira. « Ouvrez les portes, messieurs, dit le roi. » Les gardes du corps se précipitèrent, dispersant les débris de la barricade. Pendant ce temps, on entendait la voix de Lafayette qui criait « « Messieurs de la garde nationale parisienne, j'ai donné hier ma parole au roi qu'il ne serait fait aucun tort à ce qui appartient à sa majesté. Si vous laissez égorger les gardes, vous me ferez manquer à ma parole d'honneur et je ne serai plus digne d'être votre chef. » Lorsque la porte s'ouvrit, les deux personnes que l'on aperçut étaient le général Lafayette et Gilbert. Un peu à gauche se tenait Billot, tout joyeux de la part qu'il venait de prendre dans la délivrance du roi. C'était Billot qui avait été réveillé Lafayette. Derrière Lafayette, Gilbert et Billot se tenait le capitaine Gondran, commandant de la compagnie du centre de Saint-Philippe-du-Roule. Madame Adélaïde fut la première qui s'élança au-devant de Lafayette et lui jetant les bras au cou avec la reconnaissance de la terreur. « Ah, monsieur !» s'écria-t-elle, « c'est vous qui nous avez sauvés !» Lafayette s'avança respectueusement pour franchir le seuil de l'œil de bœuf, mais un officier l'arrêta. « Pardon, monsieur, demanda-t-il, mais avez-vous vos grandes entrées ?» « S'il ne les a pas, dit le roi, en tendant la main à Lafayette, je les lui donne.
« Vive le roi, vive la reine !» cria Billot.
Le roi se retourna. « Voilà une voix que je connais, dit-il en souriant.
« Vous êtes bien bon, sire, répondit le brave fermier. « Oui, oui, c'est la voix du voyage à Paris. « Ah, si vous y étiez resté, au lieu de revenir ici, à Paris !»
La reine fronça le sourcil.
« Oui, dit-elle, avec cela qu'ils sont aimables, les Parisiens.
« Eh bien, monsieur, demanda le roi à monsieur de Lafayette, en homme qui veut dire, à votre avis, que faut-il faire ?»«
Sire, répondit respectueusement monsieur de Lafayette, je crois qu'il serait bon que votre majesté se montrât au balcon. »
Le roi interrogea Gilbert, mais de l'œil seulement. Le roi alla droit à la fenêtre, l'ouvrit sans hésitation et parut sur le balcon. Un grand cri, un cri unanime retentit « Vive le roi !» Et puis un second cri suivit le premier « Le roi à Paris !» Et puis, entre ces deux cris, les couvrant parfois, des voix formidables criaient « La reine ! La reine !» Et à ce cri, tout le monde frissonna, le roi pâlit, Charny pâlit, Gilbert lui-même pâlit. La reine releva la tête. Pâle elle aussi, les lèvres serrées, les sourcils froncés, elle se tenait près de la fenêtre. Madame Royale était appuyée à elle, devant elle était le dauphin,
et sur la tête blonde de l'enfant se crispait sa main blanche comme un marbre. « La reine, la reine !» continuèrent les voix, devenant de plus en plus formidables. « Le peuple désire vous voir, madame, » dit Lafayette. « Oh, n'y allez pas, ma mère, » dit madame Royale, tout éplorée, jetant son bras autour du cou de la reine. La reine regarda Lafayette. « Ne craignez rien, madame, » lui dit-il. « Quoi, toute seule ?» fit la reine. Lafayette sourit, et respectueusement, avec ses manières charmantes qu'il avait conservées jusque dans sa vieillesse, il détacha les deux enfants de leur mère et les poussa les premiers sur le balcon. Et puis, offrant la main à la reine, « Que votre majesté daigne se fier à moi, » dit-il, « et je réponds de tout. » Et il conduisit à son tour la reine au balcon. C'était un terrible spectacle et propre à donner le vertige que cette cour de marbre transformée en une mer humaine pleine de vagues hurlantes. À la vue de la reine, un cri immense s'élança sur toute cette foule, et l'on n'eût pu dire si c'était un cri de menace ou un cri de joie. Lafayette baisa la main de la reine, alors les applaudissements éclatèrent. C'est que dans cette noble nation française, jusque dans les veines les plus roturières, il y a du sang de chevalier. La reine respira. « Étrange peuple, » dit-elle, puis tressaillant tout à coup, « Et mes gardes, monsieur, et mes gardes qui m'ont sauvé la vie, ne pouvez-vous rien pour eux ?»« Donnez-m'en un, madame, » dit Lafayette. « monsieur de Charny !» s'écria la reine. Mais Charny fit un pas en arrière, il avait compris ce dont il s'agissait. Il ne voulait pas faire amende honorable pour la soirée du 1er octobre. N'étant pas coupable, il n'avait pas besoin d'amnistie. André, de son côté, avait senti la même impression. Elle avait étendu la main vers Charny afin de l'arrêter. Sa main rencontra la main du comte, ses deux mains se serrèrent l'une dans l'autre. La reine le vit. Elle qui, cependant, avait tant de choses à voir dans ce moment-là, son œil flamboya, et la poitrine haletante, la voix saccadée. « Monsieur, » dit-elle à un autre garde, « monsieur, venez, je vous l'ordonne. » Le garde obéit. Il n'avait pas d'ailleurs les mêmes motifs d'hésitation que Charny. Monsieur de Lafayette attira le garde sur le balcon, mit au chapeau du garde sa propre cocarde tricolore et l'embrassa. « Vive Lafayette ! Vive les gardes du corps !» crièrent 50 000 voix. Quelques voix voulurent faire entendre ce grondement sourd, dernière menace de l'orage qui s'enfuit, mais elles furent couvertes par l'acclamation universelle. « Allons, » dit Lafayette, « tout est fini, et voilà le beau temps revenu. » Puis, rentrant, « Mais pour qu'il ne soit pas troublé de nouveau, sire, il reste un dernier sacrifice à faire. » « Oui, » dit le roi pensif, « quitter Versailles, n'est-ce pas ? Venir à Paris, oui, sire. Monsieur, dit le roi, vous pouvez annoncer au peuple qu'à 1 heure, nous partirons pour Paris, la reine, moi et mes enfants. » Et puis à la reine, « Madame, dit-il, passez dans votre appartement et préparez-vous. » Cet ordre du roi parut rappeler à Charny quelque chose comme un événement d'importance qu'il avait oublié. Il s'élança, précédant la reine. « Qu'allez-vous faire chez moi, monsieur ?» dit durement la reine. « Vous n'y avez pas besoin. »« Je le désire bien vivement, madame, » dit Charny. « Soyez tranquille, si je n'y ai pas réellement besoin, je n'y resterai pas assez longtemps pour que ma présence déplaise à votre majesté. » La reine le suivit. Des traces de sang maculaient le parquet. La reine les vit. La reine ferma les yeux et, cherchant un bras pour la guider, elle prit celui de Charny et marcha ainsi pendant quelques pas en aveugle. Tout à coup, elle sentit Charny frissonner de tout son corps. « Qu'y a-t-il, monsieur ? » demanda-t-elle en rouvrant les yeux. Puis tout à coup, « un cadavre !» s'écria-t-elle. « Votre majesté m'excusera de lui quitter le bras, » dit-il. « J'ai trouvé ce que je venais chercher chez elle, le cadavre de mon frère Georges. » C'était en effet celui du malheureux jeune homme à qui son frère avait ordonné de se faire tuer pour la reine. Il avait ponctuellement obéi. Le récit que nous venons de faire a déjà été fait de 100 manières différentes, car c'est bien certainement un des plus intéressants de cette grande période de 1789 à 1795 et qu'on appelle la Révolution française. Il sera fait de 100 autres manières encore, mais nous l'affirmons d'avance, personne ne l'aura fait avec plus d'impartialité que nous. Mais après tous ces récits, le nôtre compris, il en restera encore autant à faire, car l'histoire n'est jamais complète. 100 000 témoins ont chacun leur version, 100 000 détails différents ont chacun leur intérêt et leur poésie, par cela même qu'ils sont différents. Mais à quoi serviront les récits, si véridiques qu'ils soient? Jamais leçon politique a-t-elle instruit un homme politique? Les larmes des reines et le sang des rois ont-ils jamais eu la puissance de la simple goutte d'eau qui creuse les pierres? Non, les reines ont pleuré, non, les rois ont été égorgés, et cela sans que leurs successeurs aient jamais profité de la cruelle instruction donnée par la fortune. Les hommes dévoués ont prodigué leur dévouement sans que cela en ait profité que la fatalité avait destiné au malheur. Hélas, nous avons vu la reine trébucher presque au cadavre d'un de ces hommes que les rois qui s'en vont laissent tout sanglant sur le chemin qu'ils ont parcouru dans leur chute. Quelques heures après le cri d'effroi qu'avait poussé la reine, et au moment où, avec le roi et ses enfants, elle quittait Versailles où elle ne devait plus rentrer, voilà ce qui se passait dans une petite cour intérieure, humide de la pluie qu'un âcre vent d'automne commençait à sécher. Un homme vêtu de noir était penché sur un cadavre. Un homme vêtu de l'uniforme des gardes s'agenouillait de l'autre côté de ce cadavre. À 3 pas d'eux se tenait, les mains crispées, les yeux fixes, un troisième compagnon. Le mort, lui, c'était un jeune homme de 22 à 23 ans, dont tout le sang paraissait s'être écoulé par de larges blessures reçues à la tête et à la poitrine. Sa poitrine, toute sillonnée et devenue d'un blanc livide, semblait encore se soulever sous le souffle dédaigneux de la défense sans espoir. Sa bouche entr'ouverte, sa tête renversée en arrière, avec une expression de douleur et de colère, rappelait à l'esprit cette belle image du peuple romain, et la vie, avec un long gémissement, s'enfuit dans la demeure des ombres. L'homme vêtu de noir, c'était Gilbert, l'officier à genoux, c'était le comte, l'homme debout, c'était Billot, le cadavre, c'était celui du baron Georges de Charny. Gilbert, penché sur le cadavre, regardait avec cette sublime fixité qui, chez le mourant, arrête la vie prête à fuir et qui, chez la mort, rappelle presque l'âme envolée. « Froid, raide, il est mort, bien mort, » dit-il enfin. Le comte de Charny poussa un rauque gémissement et, serrant dans ses bras ce corps insensible, éclata en des sanglots si déchirants que le médecin tressaillit et que Billot alla se cacher la tête dans l'angle de la petite cour. Puis, tout à coup, le comte releva le cadavre, l'adossa au mur et se retira lentement, regardant toujours si son frère mort n'allait pas se ranimer et le suivre. Gilbert demeura sur un genou, la tête appuyée sur sa main, pensif, épouvanté, immobile. Billot alors quitta son coin d'ombre et vint à Gilbert. Il n'entendit plus les cris du comte qui lui avait déchiré le cœur. « Hélas, hélas, monsieur Gilbert, dit-il, voilà donc décidément ce que c'est que la guerre civile et ce que vous m'aviez prédit arrive. Seulement, la chose arrive plus vite que je ne croyais et que vous ne croyez vous-même. J'ai vu ces scélérats égorgés de malhonnêtes gens. Voilà que je vois ces scélérats égorgés d'honnêtes gens. J'ai vu massacrer Flessel, j'ai vu massacrer Monsieur de Launay, j'ai vu massacrer Foulon, j'ai vu massacrer Berthier. J'ai frémi de tous mes membres et j'ai eu horreur des autres. Et pourtant, les hommes qu'on tuait là n'étaient que des misérables. C'est alors, monsieur Gilbert, que vous m'avez prédit qu'un jour viendrait où l'on tuerait les honnêtes gens. On a tué monsieur le baron de Charny. Je ne frémis plus, je pleure, je n'ai plus horreur des autres, j'ai peur de moi-même. Billot, fit Gilbert, Mais sans écouter, Billot continua. « Voilà un pauvre jeune homme qu'on a assassiné, monsieur Gilbert. C'était un soldat, il a combattu. Lui n'assassinait pas, mais il a été assassiné. » Billot poussa un soupir qui semblait sortir du plus profond de ses entrailles. « Ah, dit-il, ce malheureux, je le connaissais enfant, je le voyais passer, allant de Boursonne à Villers-Cotterêts, sur son petit cheval gris. Il apportait du pain aux pauvres de la part de sa mère. C'était un bel enfant, au teint blanc et rose, avec de grands yeux bleus. Il riait toujours. Eh bien, c'est étrange, depuis que je l'ai vu là, étendu, sanglant, défiguré, ce n'est plus un cadavre que je revois, c'est toujours l'enfant souriant qui tient au bras gauche un panier et sa bourse de la main droite. Ah, monsieur Gilbert, en vérité, je crois que c'est assez comme cela. Je n'ai plus envie d'en voir davantage, car vous me l'avez prédit, nous en arriverons à ce que je vous vois mourir aussi, vous. Et alors ? Gilbert secoua doucement la tête. « Billot, dit-il, sois calme, mon heure n'est pas encore venue. »« Soit, mais la mienne est arrivée, docteur. Ah, j'ai là-bas des moissons qui ont pourri, des terres qui restent en friche, une famille que j'aime 10 fois plus encore en voyant ce cadavre que pleure sa famille. » « Que voulez-vous dire, mon cher Billot ? Supposez-vous, par hasard, que je vais m'apitoyer sur vous ?»« Oh non !» répondit naïvement Billot. « Mais comme je souffre, je me plains, et comme se plaindre ne mène à rien, je compte m'aider et me soulager à ma façon. C'est-à-dire que j'ai envie de retourner à la ferme, monsieur Gilbert. » Encore, Billot ? Ah, monsieur Gilbert, voyez-vous, il y a une voix là-bas qui m'appelle. Prenez garde, Gilbert, cette voix vous conseille la désertion. Non, je ne suis pas un soldat pour déserter, monsieur Gilbert. Ce que vous ferez, Billot, sera une désertion bien autrement coupable que celle du soldat. Expliquez-moi cela, docteur. Comment, vous serez venu démolir à Paris et vous vous sauverez à la chute de l'édifice? Pour ne pas écraser mes amis, oui. Ou plutôt, pour ne pas être écrasé vous-même. Fit Billot, il n'est pas défendu de penser un peu à soi. Ah, voilà un beau calcul, comme si les pierres ne roulaient pas, comme si en roulant elles n'écrasaient pas, même à distance, les peureux qui s'enfuient. Ah, vous savez bien que je ne suis pas un peureux, monsieur Gilbert. Alors vous resterez, Billot, car j'ai encore besoin de vous ici. Ma famille aussi a besoin de moi, là-bas. Billot, Billot, je croyais que vous étiez convenu avec moi qu'il n'y avait pas de famille pour un homme qui aime sa patrie. Je voudrais savoir si vous répéteriez ce que vous venez de dire en supposant que votre fils Sébastien soit là, où est ce jeune homme ? Et il montrait le cadavre. Billot, répondit stoïquement Gilbert, un jour viendra où mon fils Sébastien me verra, comme je vois ce cadavre. Tant pis pour lui, docteur, si ce jour-là il est aussi froid que vous l'êtes. J'espère qu'il vaudra mieux que moi, Billot, et qu'il sera plus ferme encore, précisément parce que je lui aurai donné l'exemple de la fermeté. Alors vous voulez que l'enfant s'accoutume à voir couler le sang, qu'il prenne à l'âge tendre l'habitude des incendies, des potences, des émeutes, des attaques de nuit, qu'il voie insulter la reine, menacer les rois, et lorsqu'il sera dur comme une épée, froid comme elle, vous voulez qu'il vous aime, qu'il vous respecte. Non, je ne veux pas qu'il voie tout cela, Billot. Voilà pourquoi je l'ai renvoyé à Villers-Cotterêts, ce que je regrette presque aujourd'hui.
Comment, ce que vous regrettez aujourd'hui?
Oui. Et pourquoi aujourd'hui?
Parce qu'aujourd'hui, il eût vu mettre en pratique cet axiome du lion et du rat, qui, pour lui, n'est qu'une fable.
Que voulez-vous dire, monsieur Gilbert?
Je dis qu'il eût vu un pauvre fermier que le hasard avait amené à Paris, un brave et honnête homme qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'eût jamais cru que sa vie pût avoir une influence bonne ou mauvaise sur ses hautes destinées qu'il osait à peine mesurer de l'œil, je dis qu'il eût vu cet homme qui déjà voulait à une époque quitter Paris, comme il le veut encore, je dis qu'il eût vu cet homme contribuer efficacement à sauver aujourd'hui
un roi, une reine et deux enfants royaux. » Billot regardait Gilbert avec deux yeux étonnés. « Comment cela, monsieur Gilbert » dit-il. « Comment cela, sublime ignorant, je vais te le dire. » En s'éveillant au premier bruit, en devinant que ce bruit était une tempête prête à s'abattre sur Versailles, en courant réveiller monsieur de Lafayette, car il dormait, monsieur de Lafayette. Dame, c'était bien naturel, il y avait 12 heures qu'il était à cheval, il y avait 24 heures qu'il ne s'était couché. En le conduisant au château, continua Gilbert, et en le jetant au milieu des assassins, en criant « Arrière misérable, voici le vengeur !» « Ah, tiens, c'est vrai, dit Billot, je fais tout cela. »« Eh bien, Billot, tu vois que c'est une grande compensation, mon ami. Si tu n'as pas empêché ce jeune homme d'être assassiné, peut-être as-tu empêché qu'on assassinât le roi, la reine et les deux enfants, ingrats, qui demandent à quitter le service de la patrie au moment où la patrie te récompense. » « Mais qui saura jamais ce que j'ai fait, puisque je ne m'en doutais pas moi-même. » « Toi et moi, Billot, n'est-ce point assez ?» Billot réfléchit un instant, puis, tendant sa rude main au docteur, « Ah, tenez, vous avez raison, monsieur Gilbert, dit-il. Mais, vous le savez, l'homme est une créature faible, égoïste, inconstante. Il n'y a que vous, monsieur Gilbert, qui soyez fort, généreux et constant. Qui vous a rendu comme cela ?» Le malheur, dit Gilbert, avec un sourire dans lequel il y avait plus de tristesse que dans un sanglot. « C'est singulier, dit Billot, je croyais que le malheur rendait méchant. Le faible, oui. Et si j'allais être malheureux et devenir méchant, peut-être seras-tu malheureux, mais tu ne deviendras jamais méchant, Billot. Vous êtes sûr ? Je réponds de toi. » « Alors, dit Billot en soupirant. « Alors, répéta Gilbert, alors je reste, mais plus d'une fois encore, je le sais, je faiblirai ainsi. Et à chaque fois, Billot, je serai là pour te soutenir. « Ainsi soit-il fait, soupira le fermier. » Puis, jetant un dernier regard sur le cadavre du baron de Charny, que les domestiques s'apprêtaient à enlever dans une civière, « C'est égal, dit-il, c'était un bien bel enfant que ce petit Georges de Charny, sur son petit cheval gris, avec son panier au bras gauche et sa bourse à la main droite. »